Seigneur, quelle joie de pouvoir chanter de telles choses, de te dire que nous voulons nous attendre à toi. Et donc, donne-nous de faire cela encore toute cette semaine. Nous te prions, donne-nous là maintenant d'être ceux qui écoutent ta parole telle qu'elle est, non pas comme la parole venant des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en nous qui croyons. Et nous te prions cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Quelle joie pour nous d'avoir Elvan là maintenant, membre de notre Église. Et si vous vous intéressez à savoir ce que c'est être membre, n'hésitez pas à nous en parler. Si vous êtes ado ou si vous êtes enfant 10 ans et plus, n'oubliez pas que si vous voulez, là-bas, il y a des feuilles pour vous. Je pense que la plupart ont déjà, sont déjà servis de ces différentes feuilles. Éventuellement, c'est utile. C'est utile pour vous, les parents, d'en parler avec vos enfants après, parce qu'ils posent des questions là, ils parlent des mots qu'ils ne comprennent pas, ainsi de suite. Donc, pensez à en parler lorsque vous êtes en train de manger un peu plus tard. J'espère que vous allez manger, c'est agréable de manger, mais lorsque vous mangez, alors voilà une potentielle piste pour de la conversation avec vos enfants adolescents. Ce n'est pas toujours facile, la conversation avec vos enfants adolescents. Et donc, voilà une piste pour vous. Donc, j'espère que vous avez le livret ici ouvert. Vous voyez, il y a des prières, il y a le plan aussi de ce que nous allons voir ensemble. Et il y a également le texte du jour qu'Elvan a lu pour nous avec deux textes complémentaires du Nouveau Testament et on arrivera à ça un peu plus tard. Bon, il y a à peu près une semaine, bon, il y a 6 jours, je pense, que j'étais avec d'autres en train d'observer la première danse de notre pasteur adjoint et son épouse Jessica. Ils avaient choisi un vieux classique pour cette danse, pour faire plaisir aux plus âgés. Et donc, c'était de Elvis, « I can't help falling in love with you ». Peut-être que vous connaissez la mélodie, je ne vais pas vous donner la mélodie maintenant. « Je ne peux pas m'empêcher de tomber amoureux de toi ». Alors, qu'est-ce qu'il chante Elvis dans ce chant? Je ne pense pas que c'est lui qui a écrit le chant, mais il dit ceci, je vais le dire un petit peu en anglais pour plaisir, parce que c'est un chant. « Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. » Donc, les hommes sages disent, seuls les imbéciles se précipitent dans ce qui est l'amour, mais je ne peux m'empêcher de tomber amoureux de toi. Et ensuite, il continue, « Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes, some things are meant to be. » Donc, comme une rivière coule sûrement vers la mer, chérie, c'est ainsi que ça se passe, certaines choses sont censées être magnifiques. Alors, c'est la version, si vous voulez, un peu Hollywood de l'amour, cela. C'était notre destin. Tellement c'est fort, c'est inévitable qu'on tombe amoureux l'un à l'autre. Et en écoutant cela, il y a 6 jours, j'ai pensé à la dernière prédication de Benjamin avant son mariage à Woluwe. Malachie, chapitre 2, versets 10 à 16, où on entendait parler de l'infidélité de Judas. Le peuple de Dieu de l'époque rétabli dans la terre d'Israël suite à l'exil. Et le verset 11 du chapitre 2, donc le chapitre précédent de ce que nous avons lu, disait que Judas avait abandonné le Seigneur et il a épousé la fille d'un dieu étranger. Et il y avait un reflet de cette infidélité envers Dieu dans la propre relation conjugale au sein du peuple de Dieu. Verset 14 du chapitre 2, « Tu as trahi la femme de ta jeunesse. » La Bible, vous voyez, bien sûr, Benjamin et Jessica sont conscients de ceci, nous donne un regard plutôt réaliste par rapport à la lutte du cœur humain. Le sentiment ne suffit pas pour tenir dans nos relations. Que cela soit notre relation avec le Seigneur, que cela soit nos relations les uns les autres. Et c'est pourquoi à la fin du chapitre 2 de Malachie, verset 15, nous sommes exhortés à veiller sur notre esprit. Oui, il faut veiller sur ce genre de choses. Mais nous veillons aujourd'hui en tant que peuple de Dieu avec une connaissance que l'amour de Dieu envers nous ne dépend pas de notre fidélité. Et le texte que nous avons maintenant sous les yeux souligne cet aspect pour nous. Car c'est ici, si vous voulez, qu'on arrive au cœur de la prophétie de Malachie. Ce que Dieu, à travers son prophète, désire accomplir en nous. C'est là au verset 7 de notre texte. « Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Alors, sur quelle base invite-t-il son peuple à revenir à lui? Sur base de ses sentiments envahissants qu'il éprouve pour son peuple? Non, sur base, verset 6, de sa fidélité. Et du coup, de sa patience. Et ça, ça nous mène à notre premier point sur votre livret. D'abord, c'est un appel à la repentance, mais remercions le Seigneur pour sa patience. Verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, descendants de Jacob, vous n'avez pas été détruits. » Alors, telle est la sainteté, la bonté de Dieu qu'il aurait pu laisser tomber ce peuple d'Israël, peuple de Juda, rétif, il y a longtemps. D'ailleurs, je pense qu'il appelle le peuple ici Jacob, probablement pour évoquer ce côté sournois de ce fils de Isaac qui cherchait Jacob, lui, à tout prix, à voir ce qu'il voulait dans la vie. Mais Dieu, le Dieu de Jacob, ne rejette pas le peuple de Juda. Il les ramène d'exil. Il ne les avait pas détruits à ce moment-là. Il aurait pu, il avait mérité. Mais l'amour de Dieu trouve sa source, pas dans la performance de l'autre, de son peuple, mais dans son alliance, son engagement de tenir parole, d'aimer, même lorsque cet amour n'est pas réciproque. Ainsi, cet amour devient le modèle, encore aujourd'hui, pour notre amour. Et c'est pourquoi, que lors de la célébration d'un mariage, aujourd'hui, je trouve qu'on se laisse toujours un peu trop influencer par Elvis, si vous voulez, ou que qui que ce soit d'autre. Car nous avons tendance encore aujourd'hui à dire que je me marie car aujourd'hui je l'aime. Au lieu de dire que je me marie et par conséquent, je vais l'aimer. Lors du jour du mariage, on déclare par alliance solennellement que je vais aimer cette personne, quoi que ça coûte. Et les deux premiers versets que nous avons ici sous les yeux nous invitent à célébrer donc la patience, la fidélité de Dieu envers son peuple. Qu'il lance, lui, le Seigneur, encore à ce stade, un appel à la repentance, démontre qu'au fond, Dieu ne cherche pas à condamner son peuple, mais plutôt à sauver son peuple. Alors, dans nos chansons d'amour encore plus modernes d'aujourd'hui, c'est normalement celui qui a fait du tort ou qui est soupçonné d'avoir fait du tort qui appelle à celle ou à celui qui est sur le point de quitter l'autre, de plutôt revenir à lui, de lui pardonner pour cette faute, d'accepter que l'autre, malgré ses failles, l'aime. Voici les paroles de Slimane, d'une chanson de 2022, La Recette. « De quoi tu me parles? Dans ma tête, il n'y a que toi et moi. » La recette, c'est toi et moi. On sait déjà pourquoi tu pars. À la fête, je n'y pense qu'à toi. La recette, c'est toi et moi. Ne me quitte pas. Donc, elle part dans cette chanson car elle le soupçonne de mal. Et donc, du coup, lui, il déclare son amour. La recette, c'est quoi? C'est toi et moi. Ne me quitte pas. Mais ici, lorsque Dieu parle à son peuple, c'est pas le coupable qui plaide son amour. Non, c'est l'innocent, c'est Dieu. C'est le Seigneur qui a été trahi. Et pourtant, il ne détruit pas. Il aime, il appelle son peuple à revenir à lui. Et cet appel est encore valable aujourd'hui, chers amis, sur base de l'œuvre de Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle encore à lui, celui qui, selon le Nouveau Testament, fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Moi, je ne sais pas où vous vous trouvez ce matin par rapport à Jésus-Christ. Peut-être vous êtes là et vous vous dites, je suis très loin, honnêtement, de Jésus-Christ. Vous ne le direz peut-être pas ça à haute voix. Peut-être vous êtes de ceux qui disent, mais je suis plutôt proche, je pense, de Jésus-Christ, mais je suis encore réticent de me mettre sur le terrain pour jouer le jeu, si jouer le jeu, c'est d'être disciple de Jésus. Peut-être vous êtes désireux d'être disciple de Jésus. Vous regardez autour de vous différentes personnes ici, vous vous dites, bah, c'est pas pour moi cette foi chrétienne, vous savez, car je ne suis pas comme ces personnes respectables ici dans cette église. Le Seigneur t'appelle à lui. Peu importe ton palmarès moral jusque-là, nous ne sommes pas ici un rassemblement de personnes respectables, vous savez, ce n'est pas ça notre but. Nous sommes un groupe de personnes graciées par la bonté du Seigneur. Nous avons découvert donc la patience de Dieu envers nous. Peut-être vous vous dites, mais moi je me suis déjà tourné vers le Seigneur. Alors remercions le Seigneur encore aujourd'hui pour sa patience. Lorsque Malachie appelait le peuple à la repentance, concrètement, qu'est-ce qu'il avait en tête pour ce peuple ? Quand visiblement, le peuple de Juda n'était pas conscient de leur besoin de revenir à lui. Vous voyez ça au verset 7, à la fin. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir ? Alors cela nous mène à notre deuxième point. Retrouvons la vision d'un Dieu à la hauteur de nos craintes. Retrouvons la vision d'un Dieu à la hauteur de nos craintes. Verset 8, le Seigneur accuse le peuple d'avoir trompé Dieu. Verset 8, un homme peut-il tromper Dieu ? En effet, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Vous voyez encore une fois, Judas est aveugle quant à sa tromperie. Et donc, Malachie révèle le nœud du problème. En quoi avait-il trompé Dieu ? Dans les dîmes et les offrandes. Oui, le verset 10 les exhorte d'apporter toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, c'est-à-dire le temple. Cela sous-entend que ces dîmes et offrandes n'ont pas été apportées. Et vu cela, Dieu demande, verset 8, un homme peut-il tromper Dieu ? Bien sûr, c'est une question rhétorique. On ne peut pas tromper Dieu, il sait tout, il sonde les cœurs et les pensées de l'homme. Et pourtant, c'est ça ce qu'ils font. Comme s'ils croient que Dieu n'est pas trop concerné par ce qu'eux, ils font. Il est trop lointain pour avoir un regard sur leur compte en banque. Dieu les appelle à la repentance dans ce domaine. Si c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux, comme nous dit l'apôtre Paul, c'est la générosité financière envers Dieu ou l'absence de générosité financière envers Dieu qui est un test souvent déterminant pour notre spiritualité. À l'époque de Malachie, la loi de Dieu stipulait que chaque Israélite devait donner 10% de leur récolte et de leur bétail au tabernacle et au temple ou pour les prêtres lévitiques. En fait, il y avait plusieurs dîmes à donner en Israël. Et certains ont fait les calculs de tout cela. Ils estiment qu'au lieu d'être 10% de leurs revenus, dans un ensemble, tous ces différents dîmes signifiaient environ 20% de leurs revenus, revenus d'un foyer en Israël, ont été consacrés pour la vie de la communauté d'Israël. Mais au lieu de partager de bon cœur à cette taxe, si nous voulons le dire comme ça, qui faisait preuve donc d'un amour sincère pour le Seigneur et pour son peuple, le peuple, à l'époque de Malachie, négligeait cette obligation. Et ils ne sont même pas conscients du problème. Alors, vous verrez que j'ai intitulé ce point « Retrouvons la vision d'un Dieu à la hauteur de nos craintes ». Parce que les versets 10 et 11 développent, si vous voulez, ce qui est derrière l'avarice ou la difficulté de participer aux offrandes et à la dîme. Verset 10 dit ceci, « Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. » Si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Oui, derrière la réticence d'obéir à Dieu, il y a la pensée que Dieu, dans ce qu'il leur demande à faire, n'a pas la puissance d'honorer ses promesses, de bénir ce peuple. C'est un manque de foi dans la capacité de Dieu d'être à la hauteur de ce qu'il demande au peuple d'Israël de faire. C'est toujours un manque de foi qui est derrière le péché, vous savez. Prenons un autre exemple avant d'arriver à l'exemple de la gestion de notre argent. Prenons peut-être l'exemple de la pornographie. On ne parle pas énormément dans notre assemblée, mais la pornographie, même parmi les chrétiens, est encore quelque chose qui est un fléau parmi le peuple de Dieu. Donc beaucoup, même j'imagine dans cette assemblée, luttent avec. Alors l'œil est facilement attiré parce qu'il semble satisfaire nos désirs. Dans ce domaine, c'est souvent le cas. Dieu, on dit, peut-être pas explicitement, mais on le dit dans notre cœur, « Non, 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 Dieu, tu ne le comprends pas. Ce désir que j'ai, c'est trop fort pour moi. J'ai envie, tu sais, parce que ce que ça offre va au-delà de ce que je pense que toi, tu m'offres dans ta parole. Tu dis que le bonheur et l'épanouissement, ce n'est pas dans cette voie-ci. » Mais moi, je ne te fais pas confiance. Tu n'es pas à la hauteur de mes craintes. Vous voyez comment ça marche. C'est un manque de foi. Ce n'est pas juste une mauvaise action. Tout péché démontre un manque de foi. Car si nous tournons vers le péché, nous y allons car nous croyons sur le moment que ce que ce péché m'offre est plutôt bon que mauvais. Et donc, nous disons implicitement à Dieu qu'il a tort de nous priver de ce qui est bon. Alors maintenant, on revient au domaine de l'argent, si vous voulez. Lorsqu'un Israélite a donné la dîme, cela donc faisait preuve de foi. Tu es capable, Seigneur, de prendre bien soin de moi, même si je donne ce montant conséquent, que j'aurais utilisé autrement pour prendre soin de moi et des miens dans la vie quotidienne. Donc pour Judas de l'époque, donner la dîme et l'offrande impliquait deux choses. Et vous voyez ces deux choses sur le plan dans le livret que vous avez. Être généreux, c'est-à-dire donner la dîme là où la loi l'avait stipulé. Et deuxièmement donc, découvrir la bénédiction qui découle de Dieu. Car le verset 10 parle d'une bénédiction en abondance. Le verset 11, d'une terre féconde qui ne sera pas ravagée par l'insecte vorace ou la vigne ne sera pas stérile. Soyez généreux, donc dit le Seigneur, envers moi et vous verrez que je vous bénirai de retour. Vous ne serez plus frappés, selon le verset 9, de malédiction. Bon, mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas le peuple de Juda en Israël. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance, mais nous sommes sous la nouvelle alliance. Le prêtre, par excellence, Jésus-Christ, est déjà venu. Il n'y a plus donc besoin de donner au prêtre lévitique. Le Seigneur Jésus-Christ et les sacrifices offerts au temple pointent vers lui. Donc, il n'y a plus de temple. Le temple, c'est le peuple de Dieu, là où Dieu est présent aujourd'hui par son esprit. Ce n'est pas un édifice physique à Jérusalem encore à maintenir. Et donc, la dîme en tant que telle n'existe plus parce que cette structure n'existe plus. Et le peuple de Dieu n'est pas non plus un État-nation comme au temps d'Israël. Non, le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est un peuple international, composé non pas sur base d'une descendance physique, mais sur base d'une foi commune placée en Jésus-Christ. Donc les promesses de bénédiction ne sont plus liées à la terre, cette parcelle de terre où il y avait le peuple de Dieu de l'époque. Aujourd'hui, nous n'avons pas de terre, nous sommes sur toute la terre. Donc les produits du sol, les vignes dans nos campagnes, il n'y a pas de promesses liées à nous dans ce sens-là. Mais les promesses sont liées aujourd'hui à notre héritage céleste, les bénédictions spirituelles dont nous bénéficions en Jésus-Christ. Revenons donc à ces deux exhortations, soyez généreux et découvrons la bénédiction qui découle de Dieu, avec les yeux donc des croyants en Christ aujourd'hui. Et nous verrons que les exhortations ont encore leur place pour nous, les croyants rassemblés à Bruxelles en 2022. Donc d'abord, soyons généreux. Oui, si c'est vrai que l'exhortation à donner la dîme ne se retrouve nulle part dans le Nouveau Testament, le principe de générosité, de pouvoir aux besoins des ouvriers de la parole de Dieu, de pouvoir aux besoins de l'Église de Jésus-Christ, ces choses apparaissent régulièrement dans le Nouveau Testament. L'un de ces endroits, ces deux chapitres que vous avez quelques extraits sur votre feuille, 2 Corinthiens chapitre 8 et 2 Corinthiens chapitre 9. Alors, lisons ce que dit l'apôtre Paul à partir du verset 7, donc le deuxième verset sur la feuille. De même que vous excellez en tout, il dit aux Corinthiens, en foi, en parole, en connaissance, en empressement de tout genre et en votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi en cette œuvre de grâce, à savoir l'œuvre de contribuer à nos collectes pour des chrétiens à Jérusalem. Je ne dis pas cela, verset 8, pour donner un ordre, mais pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Oui, ceux qui connaissent la grâce de Dieu sont ceux qui donc ont été enrichis par Dieu. Et ici, la preuve qu'ils connaissent cette grâce, c'est quoi ? C'est qu'ils participent à cette générosité, cette collecte. Ce n'est pas un ordre. Non, à aucun moment est-ce qu'un apôtre ou un pasteur ou un ancien d'une église locale peut-il exiger le montant qu'un croyant doit donner à son église ou une autre œuvre. Mais c'est un constat. Si nous avons bénéficié de la grâce de Dieu, nous excellerons également à cette grâce de donner. Oui, au chapitre 9, verset 7, aussi sur votre feuille, Paul dit que chacun doit donner comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est magnifique. Je suis libéré pour donner avec joie, pas sous contrainte. Mais cela n'est pas une exhortation à ne pas être généreux, vous savez. À dire, ah, vous voyez, la dîme, ça ne s'applique plus, je ne dois plus donner 10%. Ouf, maintenant, je peux juste donner quelques centimes que j'ai en poche. Non, c'est une exhortation de réfléchir à la grâce de Dieu envers nous pour que notre cœur, par conséquent, déborde de générosité. Comme au chapitre 8, verset 3, vous n'avez pas ça sur la feuille, les croyants de la Macédoine ont fait, eux, dit Paul, qui ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. L'absence donc de la dîme aujourd'hui en tant que loi ne signifie pas que sous la nouvelle alliance, nous donnons forcément moins que 10%. Non, ça nous libère pour être généreux, parfois au-dessus de 10%, parfois, selon les moyens, en dessous de 10%. Est-ce que le Seigneur nous invite aujourd'hui, vu qu'on parle dans ce texte, à revoir notre générosité envers lui, envers son œuvre, ce matin? Je suis conscient, en disant ceci, que cette prédication tombe lors d'une crise énergétique qui a vu les prix exploser ces derniers temps. Et les revenus de beaucoup de personnes, même dans notre assemblée, ont été fortement touchés par cela. Des sacrifices matériels sont en cours dans beaucoup de foyers, c'est vrai. Mais donner généreusement à l'œuvre de Dieu fait partie des sacrifices qu'un croyant fait. Non pas de façon irresponsable, mais de façon réfléchie et généreuse. Alors parlons de notre Église. Est-ce que vous savez que notre Église a un budget, si on compte le salaire du pasteur adjoint là-dedans, un budget de 115 340 euros pour cette année-ci? On en donnera quelques chiffres la semaine prochaine, lorsque Wissam est là, parce qu'on vient d'en parler lors d'une réunion de membres au début de ce mois d'octobre. 115 300 pour à peu près 200 personnes qui disent que cette église est la leur, donne 48,5 € par mois, par personne, en moyenne. C'est-à-dire 11 € par semaine, en moyenne, par personne. Alors la question c'est, est-ce que 11 € par semaine, pour vous, selon vos circonstances, selon vos moyens, est-ce que cela fait preuve de générosité? Moi j'ai envie de dire oui pour certaines personnes, oui. Et pour d'autres personnes, non. Ce n'est pas à moi de dire à qui ça s'applique, mais c'est à chacun d'entre nous de poser la question, est-ce que je fais preuve de générosité? Collectivement, il paraît qu'à ce stade de l'année, avec rien que 2 mois à venir avant la fin d'année, nous sommes juste un peu en dessous de notre budget de 115 300. Et dans ce sens-là, cela ne fait pas bon signe. Si la moyenne devenait 20 € par semaine, la moyenne, toujours on parle de cela, et pas 11 €, est-ce que cela serait trop généreux pour vous? Peut-être, mais je ne pense pas que cela soit le cas pour un nombre conséquent de notre assemblée, je dois le dire. Cela fera un chiffre annuel de plus de 200 000 euros en tant qu'Église. Évidemment, ce n'est pas que nous visons l'extravagance pour l'utilisation de cet argent, mais nos moyens restent limités dans notre capacité de subvenir aux besoins de nos ouvriers, de la famille, des œuvres missionnaires que nous soutenons. C'est vrai, c'est rare que nous parlons ainsi de la chair dans notre Église, car nous sommes réticents, à juste titre, de tomber dans l'autre extrême, de donner trop de consignes par rapport à l'argent. Il faut faire attention avec cela. Mais l'apôtre Paul, quant à lui, parlait sans embarras, mais avec prudence aux Corinthiens. Nous devons faire de même. Pour les disciples de Jésus-Christ, ce que nous donnons fait preuve de l'état de notre spiritualité. Alors, gloire à Dieu pour ceux dans notre Église qui soutiennent l'œuvre de Dieu de manière généreuse. Vous êtes nombreux, sacrificiels. Prions dans notre Église pour que nous croissions en tant qu'assemblée dans cette grâce. Même lors de cette période financièrement difficile pour beaucoup d'entre nous. Car participer à l'œuvre de Dieu n'est pas au même niveau, vous savez, d'un abonnement Netflix, d'un abonnement GSM, d'un acompte mensuel pour l'électricité et de gaz. Vous savez, nous ne donnons pas à Dieu sur base de notre excédent à la fin du mois. Mais nous donnons à Dieu sur base de nos revenus au début du mois. Car être généreux, c'est, deuxième sous-point donc pour nous, c'est découvrir la bénédiction qui découle de Dieu. Que dit Paul dans le chapitre 9, verset 6 de 2 Corinthiens ? En fait, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Il y a de l'ironie ici, n'est-ce pas ? Car le radin pense préserver sa richesse. Mais au lieu d'être riche, il devient pauvre. Pas forcément financièrement, mais dans le sens qu'il ne découvre pas la joie et la richesse de participer à la croissance de l'œuvre de Dieu. Verset 8. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ceci pour le peuple de la Nouvelle Alliance, ce n'est pas une promesse d'abondance, de devenir encore plus riche financièrement si nous donnons généreusement. Non, ce serait de prêcher ce que nous appelons l'évangile de la prospérité. Nous ne croyons pas dans cet évangile-là. Mais c'est quand même une promesse d'abondance, de moyens pour toute œuvre bonne. On grandit ainsi. En espérance, en fraternité, en dépendance de Dieu, en joie dans le Seigneur. Cela nous équipe pour le service de Dieu. Donner, sans ces deux chapitres de 2 Corinthiens, c'est une grâce, ce n'est pas une obligation. Alors laissez-moi vous donner une illustration concrète et réelle de ce principe. Il y avait un jeune professeur d'anglais en Angleterre qui, lui, a été encouragé par son église locale à entrer dans le ministère. Mais il n'avait pas de moyens pour ses études. Et il était en train de rentrer chez lui à Noël, lors d'un long voyage en train, où il réfléchissait sur est-ce que ce serait possible pour lui alors de se lancer dans le ministère. Et lorsqu'il est en train de prier, en train de demander à Dieu qu'est-ce qu'il doit faire, il croise un autre passager dans le train à côté de lui, aussi chrétien, un homme d'affaires. Et ils partagent, ils échangent tous les deux pendant le voyage. Ils parlent de son parcours, de ce qu'il espère faire, de son église actuelle et ainsi de suite. Et à la fin du voyage, cet homme d'affaires propose de subvenir une grande partie des frais pour ses 3 années d'études. Alors j'aimerais dire qu'il y a de la bénédiction dans les deux sens pour ces deux hommes dans ce cas de figure. Pour le jeune prof qui découvre que Dieu pourvoit à ses besoins si nous nous donnons à lui. Dieu n'est le débiteur de personne, vous le savez. Mais il y a aussi bénédiction pour cet homme d'affaires qui, j'imagine, donnait déjà généreusement l'équivalent de sa dîme dans son église locale. Mais cela n'empêchait pas d'être encore plus généreux quand le cas s'est manifesté. Et ainsi, il participait à la croissance du royaume de Dieu. Vous savez, ce jeune devenait à son tour pasteur et ensuite directeur d'un institut biblique. Là où moi, j'ai suivi la première formation biblique. Et c'est lui, c'est cet homme qui m'a encouragé à venir en Belgique pour servir. Là où le besoin des ouvriers reste encore conséquent aujourd'hui, en partie parce qu'il n'y a pas suffisamment d'églises avec des moyens pour payer pour leurs propres ouvriers. Retrouvons donc la vision d'un Dieu à la hauteur de nos craintes. Et cela nous mène à notre tout dernier point, assez court. Rayonnons de sorte que d'autres soient aussi attirés vers le Seigneur. Car le verset 12 suit les exhortations à la repentance dans ce domaine. Et que se passera-t-il? Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce n'est pas ici une promesse qu'un réveil aura lieu à un point que toutes les nations de la terre reconnaîtront la beauté et la puissance de l'Église de Jésus-Christ si nous sommes généreux dans la dîme. Non. Ce verset se réalisera de façon ultime dans la nouvelle création, avec un peuple composé de toutes les nations présentes autour du trône de la nouvelle Jérusalem. Mais même si d'ici là, les croyants en Jésus-Christ doivent s'attendre à de l'opposition dans le monde, c'est le cas, cela n'empêche que certaines personnes sont attirées vers le peuple de Dieu de par la qualité de leur relation fraternelle, leur joie dans le Seigneur, leur participation aux besoins des saints. Nombreux, même dans notre Église, sont ceux qui témoignent d'une joie de participer à nos rencontres, sans qu'ils soient forcément à ce stade dans le Seigneur. Il se peut que c'est vous encore ce matin. Vous observez en quelque sorte une certaine joie, une certaine paix, une certaine authenticité dans la grâce et la générosité d'esprit que vous trouvez parmi nous. Oui, oui, c'est loin d'être parfait, on est tous d'accord. Mais c'est tout de même réel. Et notre prière pour vous dans ce cas de figure, c'est que vous soyez capables à comprendre que si cela existe parmi nous, c'est grâce à la générosité de Dieu envers nous et que vous trouvez cette générosité pour vous-même. Et je termine en disant à nos croyants ici présents que nous devons être encouragés à être une Église ouverte, accueillante, qui dans la simplicité et la générosité démontre de l'amour pour ceux qui ne ressemblent pas. C'est la marque d'authenticité d'une Église. Les Belges envers des Béninois, les jeunes envers les âgés, les riches envers les pauvres, les familles envers les célibataires, les intelligents envers les simples, et ainsi de suite. Cet esprit joue encore un rôle important pour attirer des hommes et des femmes à Jésus-Christ. Dans une société où il y a beaucoup d'exigences à appartenir à un groupe particulier, et si vous n'êtes pas conforme à ce que ce groupe dit, vous êtes rapidement ostracisé. Allez, l'Église de Jésus-Christ est une lumière de joie et de grâce. Parfois, je pense que nous pouvons être tellement suspects du monde de l'extérieur qui nous entoure, que nous donnons l'impression que chez nous, les portes sont fermées. Mais non, les portes sont encore ouvertes, car Dieu appelle encore des hommes et des femmes à revenir à lui. « Revenez à moi, » dit le verset 7 de notre texte, « et je reviendrai à vous, » dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen.